Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
On sait que Dominique Fernandez consacre à l'Italie une passion dont il a fait son métier et la fibre inspiratrice de ses romans. L'académicien né en 1929, ancien élève de l'école normale supérieure et agrégé d'italien, fut professeur à l'Institut français de Naples en 1957. Après une thèse sur l'échec de Pavèse, il fut nommé professeur d'italien à l'Université de Bretagne et mena une carrière d'écrivain et de critique littéraire. En 1974, le grand public le découvre avec son roman « Porporino ou les mystères de Naples couronnés par le prix Médicis ». D'autres livres, des récits de voyage, d'autres romans, comme « La main de l'ange » et même un dictionnaire amoureux en 2 volumes en lien avec ce pays si proche, l'Italie, ont suivi et d'autres suivront. Qu'a-t-il réservé à ses lecteurs pour cette année 2011 concernant l'Italie ? L'émission Au fil des pages vous propose cette fois de découvrir l'Italie de Dominique Fernandez de Pise à Naples, autour de son roman Pise 1951 et de son livre de voyage sur Naples, accompagné des photographies de Ferranti. Merci d'être avec nous, Dominique Fernandez, pour parler de ces deux livres, Pise 1951, paru chez Grasset, et Naples, aux éditions Imprimerie Nationale. Bonjour.
Bonjour.
Avec Pise 1951, Dominique Fernandez conduit le lecteur dans l'Italie des années 50 à travers une belle histoire d'amitié et d'amour. Deux étudiants parisiens, Robert Collinet, le narrateur, et Octave Torel, deux camarades de lycée, deux inséparables, arrivent à Pise pour une année d'études. Le roman en dit autant sur l'Italie que sur la France de ces années d'après-guerre où la vie était rude et la chape de plomb qui pesait sur la jeunesse encore très présente. Un roman tout en subtilité sur l'état d'esprit de ces années, leur conformisme et l'éclat d'une jeunesse en proie à la découverte de l'amour. Scuola, casa, chiesa, 3 mots, 3 actes, 3 parties pour ce livre, pour une histoire d'amour entre 3 personnages, 3 destins, 2 jeunes garçons et 1 jeune fille. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette Italie des années 50, Dominique Fernandez ?
Justement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est que la France n'a pas tellement changé. Enfin, elle a évolué lentement. L'Italie, celle que je décris, a totalement disparu. Parce que l'Italie était très archaïque en 50. On va en parler. Et à partir des années 60, il y a eu un boom industriel et dans les mœurs et dans les... Et alors moi, j'ai voulu écrire ce livre pour qu'il y ait un témoignage d'un pays qui a disparu, tout simplement, qui a complètement disparu. L'Italie actuelle, c'est devenu un pays européen comme tous les autres, c'est mondialisé, c'est banalisé, a perdu son caractère. Tandis que l'Italie, vraiment, des années 50, après-guerre, c'était un autre monde. Ce qui n'est pas le cas de la France, quand même. La France a évolué, non, non. Un exemple, le divorce, par exemple, n'a été institué qu'en 1973 en Italie. Donc il n'y avait pas de divorce. C'est énorme, comme... Je ne sais pas si on en parle tout de suite, mais la morale sexuelle, il y avait dans les rues, par exemple, sur le corso, il y avait d'un côté les garçons, de l'autre côté les filles, et un garçon et une fille n'avaient pas le droit de se parler en tête-à-tête. En tout cas, dans la bourgeoisie, disons. Le baiser, par exemple, public, était puni d'une amende. Et donc, il y avait une séparation rigoureuse des sexes, et en dehors du mariage, ou de la maison close, il n'y avait pas d'autre issue. Donc, c'est... Vous voyez, c'est un chamboulement énorme, ça. Et maintenant, l'Italie, c'est comme ici, comme partout, je dis dans le monde.
Vous établissez même un petit parallèle avec d'autres pays de la Méditerranée, aujourd'hui.
Entre oui, qui sont restés comme ça. Moi, je connais bien, par exemple, l'Algérie ou le Yémen. Enfin, c'est pas la Méditerranée, mais enfin, c'est... Eh bien là, c'est pareil. En dehors du mariage, il n'y a pas de... Un garçon et une fille ne peuvent pas s'isoler. D'abord, la question du logement, en Italie, il y avait aussi. On peut pas, il n'y a pas d'argent pour louer, pour aller à l'hôtel ou pour louer un studio. Donc, c'était rigoureusement, il y avait une séparation des sexes rigoureuse. En France, bon, il y avait encore les lycées de filles, lycées de garçons. Enfin, vous pouvez se promener dans la rue. Et je rappelle qu'Umberto Eco m'a raconté que quand il est venu à Paris à 18 ans, donc c'était dans les années, il est né en 30, ça fait 48, il a vu des jeunes gens se bécoter sur les quais de la Seine. Il n'y avait pas de voiture. Ça m'a paru merveilleux. Il s'est dit, voilà le pays de la liberté. puisqu'en Italie, c'était interdit.
Sa réputation de la France aussi, cette...
Oui, je veux dire que c'était... Les lois étaient tellement... Depuis la Révolution française, qu'il n'y a jamais eu en Italie, et ça a comme chamboulé les mœurs depuis longtemps. Et c'est pas, je ne dis pas qu'elles étaient libres, mais enfin, c'était quand même normal, disons, en Italie, sous l'influence du Vatican et de la religion... Et
des traditions.
La tradition, les familles, tout ça... C'était inouï. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant à Pise, parce que j'ai été...
Alors, j'allais vous demander si vous aviez...
Oui, moi, j'ai été... C'est pas tout mon histoire,
hein, je raconte. Oui, bien sûr.
Mais enfin, l'école où j'étais, c'est celle-là. Et je me rappelle une fois, j'ai promené une jeune fille, et toutes les mères ont téléphoné à la mère de cette jeune fille en disant
«
Ta fille est avec un garçon, c'est un scandale. » Vous vous rendez compte ? Alors, on se promenait dans la rue, on se tenait même pas par la main. C'était... On n'avait pas le droit d'aller au café avec une fille. Ou alors, il faudrait qu'elle soit accompagnée par une copine, la mère, la tante, ou plusieurs même. Ça, on ne se rend pas compte, mais c'était énorme comme différence.
C'est quelque chose que vous avez voulu... C'est un des sujets qui vous a conduit à vouloir traiter cette époque.
C'est le seul sujet, pratiquement. Puis, il n'y a pas que ça. Je veux dire, c'est un pays beaucoup plus beau qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de tourisme. Il n'y avait pas d'autoroute, évidemment.
Vous racontez quelques Allemands...
Oui, il n'y avait pas de consommation. Il n'y avait pas de... C'était un pays qui avait un caractère... qui est resté à Naples, comme on va en parler. Mais toute l'Italie du Nord jusqu'à Rome est devenue un pays très banal. Très beau, parce que les monuments sont restés, mais je veux dire, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de caractère.
Ça s'est mondialisé.
Totalement. Banalisé. On vit comme en France ou en Amérique, c'est pareil.
Au cours de vos études, donc, vous avez été jeune, à Pise, étudiant dans la
Moi,
même...
Moi, je suis normalien à Paris, voilà. Il y avait des échanges. Comme j'apprenais l'italien, j'avais droit à une année de... Et il faut dire que l'école normale supérieure pour toute l'Italie se trouve à Pise. C'est Napoléon qui l'a créée. Et donc, il n'y avait pas seulement les étudiants toscans, il y avait tout le gratin et studentin d'Italie venait là. Donc, c'est passionnant pour moi parce que je connais des gens remarquables. Et en plus, ils ont été logés dans un des plus beaux palais de Pise et d'Italie, qui est un palais construit par Vasari, le grand architecte du XVIe, décoré. Et moi, j'avais une chambre là, sur la place des Chevaliers de Malte, qui était... C'est un endroit absolument sublime, ça, c'est extraordinaire, ça.
C'est très beau, le début du roman où il découvre la place, parce que c'est vrai que quand on arrive en Italie, qu'on ne connaît pas l'Italie, ce qui frappe peut-être l'œil de l'habitant de France, c'est l'importance des places.
Et il faut ajouter que Pise, la chance de Pise, si vous voulez, c'est que la tour penchée, qui n'est pas tellement belle que ça, est pratiquement à l'extérieur de la ville. La place des Miracles, ce qu'on appelle, que moi, je n'aime pas beaucoup. Bon, c'est une curiosité. Alors, tous les autocars, les vendeurs de bibelots, de souvenirs, tout ça est massé...
Autour de la tour de Pise.
En dehors de la ville, contre l'empereur. Et personne ne va jamais dans la ville. La ville est déserte. Enfin, la ville est au pisant, mais il n'y a pas de tourisme. Il n'y a pas de boutique, il n'y a rien. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'aujourd'hui, Pise, la ville de Pise est restée quand même presque intacte, je dirais.
Alors, elle a gardé un petit quelque chose.
Oui, elle a gardé quelque chose. Peut-être pas dans la façon de vivre, mais dans le fait que les rues sont... Il n'y a pas de tourisme. Il n'y a pas de boutique de souvenirs. Tout ça est groupé comme un abcès, vous voyez, en dehors de la ville.
Alors, vous nous parliez tout à l'heure de ces rencontres que vous avez faites en tant que normalien à l'époque avec d'autres personnalités. Il y a des gens connus aujourd'hui,
oui,
des intellectuels.
Oui, des hommes politiques. Vous savez que comment l'école normale française, ça donne... Il y en a qui deviennent profs, mais il y en a qui deviennent hommes politiques, peut-être écrivains. Enfin, je ne sais plus, j'ai un peu perdu de vue maintenant.
Pour continuer un petit peu sur le chapitre, vous décrivez bien aussi l'état d'esprit de ces jeunes étudiants et leurs a priori, ou ce dont ils ont hérité d'un point de vue familial, mais aussi de ce qu'ils ont appris. Et là, ils arrivent en Italie, à Pise, avec une immense envie de découvrir des choses, mais en même temps avec la volonté de se libérer de tout ça.
Oui, mais à l'époque, l'Italie, c'était la guerre froide, hein, les années
50.
Alors
ça, c'est le grand sujet aussi du livre.
Ouais, les étudiants étaient très, très politisés,
oui.
Beaucoup plus qu'aujourd'hui. D'ailleurs, en France aussi, je me rappelle, ont été très politisés. Donc, il y avait deux camps. Il y avait les démocrates chrétiens, catholiques, le grand parti, et les communistes, qui étaient très forts à l'époque. D'ailleurs, il faut dire que le parti communiste était beaucoup plus fort que le français, fondé par Gramsci, un grand philosophe. Togliatti était le chef. Et Togliatti était à Torre, ce qu'un grand intellectuel est à pas grand-chose. Enfin, je veux dire, il y avait un monde... Intellectuellement, le parti communiste était très fort. Et je veux dire que les plus intelligents des étudiants étaient tous communistes. Il y avait des bagarres entre ces deux camps. C'est la guerre froide. Hein.
Oui,
en plus, il y avait un camp américain à Livourne, c'est-à-dire à 20 km de Pise, avec des avions, des tanks et tout. On s'attendait à une guerre. c'est extrêmement violent, souvent, les affrontements.
Il y a une scène qui montre l'emprise de cette idéologie qui gangrène tout, en fait, y compris les rapports hiérarchiques au sein de l'école, entre le directeur qui fait venir l'un des deux personnages et qui lui,
fait un
sermon pour ses opinions politiques, preuve à l'appui.
La démocratie chrétienne était très... avait des fiches de police sur les gens, enfin, des rapports, c'était quand même une sorte de tyrannie. Hein.
Est-ce qu'il y a d'autres romans comme ça? Parce que c'est un grand thème tout au long du livre, cette guerre froide qui est là, cette idéologie qui partage tout, en fait. Mais là, on est du point de vue occidental, on n'est pas dans un pays qui a connu un régime soviétique, donc c'est quelque chose qui est beaucoup dans les têtes, mais qui semble avoir été extrêmement présent. Et est-ce que ça a muselé, à votre avis, justement, les esprits et cette jeunesse dans ces années-là?
Ouais, bien sûr. Vous savez, le Vatican garde encore beaucoup de pouvoir. Alors, il y a 60 ans, c'était une sorte de tyrannie.
Tyrannie?
Ah oui, moi j'irais tyrannie.
Plus forte que la tyrannie religieuse, de l'emprise de l'Église à cette époque?
Mais aujourd'hui, il y a une tyrannie quand même religieuse. Il n'y a pas de Pax, il n'y a pas d'euthanasie, il n'y a pas d'avortement, il n'y a pas de rien. C'est interdit par le Vatican. Et donc, l'Italie, dans ce domaine, est très, très en retard, quand même, sur les pays occidentaux. Le Vatican freine toutes les réformes. Et est resté un pays réactionnaire à cause de ça. Mais avant, il y a 60 ans, il tenait tout le pays. Il y avait Andreotti, qui était président du Conseil pendant je ne sais pas combien de fois. Tout le gouvernement était démocrate chrétien. Souvent, d'anciens fascistes reconvertis in extremis, comme ça, pour...
Tout au long du livre court justement la langue italienne, des mots d'italien, et puis le fameux texte de Dante aussi, qui est en parallèle avec cette histoire d'amour que vous décrivez. Est-ce que vous avez voulu mettre là un peu de... Là, c'est pas une Italie qui a disparu, c'est la langue.
Ça a disparu aussi. Parce qu'à l'époque, encore, Dante était vraiment... Vous savez, il n'y a pas d'amour en italien qui ne passe par Dante. Parce que Dante a la Vita Nuova, son récit, ses amours de jeunesse, enfin amour... Une jeune fille qu'il a vue deux fois dans sa vie. Et il a bâti toute la Divine Comédie. Comme c'était un texte obligatoire. Il n'y a pas de mythe comparable à la culture française. Ça n'existe pas. Donc tout Italien qui faisait des études passait par là. Donc ça orientait sa conception de l'amour. Maintenant, je ne sais pas si Dante est aussi présent. Je crois un peu moins.
Même à l'école, même sur la langue.
Non,
sur...
ça vieillit, tout ça. Vous savez, c'est vous dites bien.
Je ne sais pas.
Aujourd'hui, c'est...
Je ne sais pas.
Non, oui, non. Si, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous dire, parce que je n'ai pas suivi. Mais ça a quand même, je pense, changé aussi, ça.
C'était difficile d'échapper à Dante pour ce sujet?
Ah oui, c'était un modèle culturel obligatoire. Je veux dire, c'était... Mais il n'y a pas d'équivalent en France. Je veux dire, il n'y a pas un modèle amoureux. Vous avez plusieurs histoires d'amour possibles. Là, c'était la grande... Une espèce de modèle culturel, de passage obligatoire. Tout le monde lisait ça et ça imprégnait vraiment les esprits. Moi, je décris, c'est une chronique, si vous voulez, ce roman, c'est une chronique d'un pays qui a disparu, qui était un pays merveilleux, je veux dire, mille fois plus intéressant qu'aujourd'hui, mille fois plus savoureux. Et après, personne ne saura plus que ça existait, mais vous voyez, c'était...
Je pense même que pour les jeunes personnes qui n'ont pas connu la guerre froide, c'est pas
en plus,
facile
oui.
Aujourd'hui,
comprendre. On est dépolitisé, il y a plus... Tout ça a changé, l'écroulement de l'Union, tout ça, c'est tellement différent. C'est une...
Et même le rapport homme-femme,
Mais aussi, il y a un personnage quand même le plus important, c'est quand même la jeune fille, qui est une jeune fille d'une famille aristocratique, il y en avait, il y en a encore de moins, qui habitait, enfin ses parents avaient une très belle villa au sens italien, c'est-à-dire c'est un palais, à 5 km de Pise, mais comme ces aristocrates ne travaillaient plus depuis des générations, ils n'avaient plus un sou, et la maison était à moitié décatie, et il y avait une immense maison avec une loggia, vous savez, comme du temps des Médicis, et la famille vivait dans deux pièces, en fait. Il y avait la cuisine, et puis il y avait l'espèce de salon qui servait ça à manger. C'est la seule pièce où il y avait un poêle pour chauffer. Et tout le reste de la maison, à part les chambres, que je n'ai pas connues, évidemment, était vide et glacial, et sous la poussière, sous les housses.
Donc elle a existé, cette
maison
a
existé, oui, mais il y en a plusieurs. Il y en a encore quelques-unes comme ça, surtout en Sicile. Ça, c'est très italien. Vous savez, d'abord, ces maisons étaient magnifiques, il faut dire. Il n'y a pas d'équivalent en France. Et toutes ces familles ont été ruinées par le fait de ne jamais travailler. Les fortunes se sont dissipées, évidemment. Et donc, c'était très mélancolique, très beau, comme ça, ces maisons qui tombaient à moitié en ruine.
Et l'Italie de cette époque, c'est un petit peu, pour nous, quand on vous lit, on pense au cinéma, au néo-réalisme italien. Et pourtant, ce n'est pas les mêmes images fortes, mais on les a en mémoire quand on vous lit. Moi, j'ai lu avec ça en tête.
Oui, bah ouais.
Alors que c'est, justement, c'est très, toute une saveur que vous... C'est des paysages très doux, des rapports humains assez doux aussi,
oui,
que,
oui.
Que vous décrivez, tout en finesse. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à Stromboli.
Oui, mais le guépard. En Sicile, il y a encore des maisons comme ça, des vieux palais, avec des familles ruinées. L'histoire du guépard, c'est ça, c'est une famille ruinée. Ils ont fait un beau mariage avec une roturière riche. Et les seules villas qui sont sauvées, même en Toscane, c'est par des mariages avec des...
Avec des gens plus fortunés pour sortir.
Une brue ou un gendre riche qui apporte l'argent.
C'est un roman nostalgique pour vous ?
Non, 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 moi je ne suis pas nostalgique. Pardon. Moi, je préfère regarder de l'avenir. Mais j'ai porté un témoignage. Pour moi, c'est une chronique des années 50 dans un pays que j'ai tellement aimé, cette Italie, que je ne retrouve plus maintenant. D'ailleurs, je ne vais plus dans ces... Moi, je vais directement à Naples, parce que Naples et la Sicile ont gardé leur caractère.
Alors, on va passer tout de suite à Naples, alors.
Non, mais sur le pays, je rajoute pays, mais je ne veux pas trop le dire, parce que je ne veux pas que trop de gens y aillent, parce que tourisme tue. Regardez Prague, c'était une ville assassinée par le tourisme. Moi, je n'irai plus jamais de ma vie, j'ai tellement aimé cette ville. C'est horrible. D'abord, on ne peut plus circuler, il y a des friteries, des magasins de souvenirs partout, c'est d'une vulgarité épouvantable. Pise a gardé sa sévérité, c'est une ville mélancolique, hein, toujours, un peu triste, mais ça a gardé son caractère. Mais c'est une des rares.
Où là, vous passez un autre registre. Naples n'a pas changé.
Et moi, je connais Naples depuis 50 ans. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas de grande surface. Vous avez les petits commerces de proximité. Je reconnais exactement, j'y vais à peu près tous les ans, je reconnais. Vous savez, ces petits commerces, la moitié des marchandises est sur le trottoir, enfin, c'est à cause du climat. Je reconnais même quelquefois les petits tas de gravats, vous savez, qu'on ne déblaye pas, qui sont dans une petite ruelle. Ça n'a pas changé. Et le caractère des gens n'a pas changé. C'est une ville, c'est une tribu étanche. Naples, c'est extraordinaire, ça.
Une résistante.
Oui, enfin, c'est pas conscient, mais c'est une ville qui ne change pas.
Est-ce que c'est possible, ça, qu'une ville ne change pas ?
Ah oui, oui. Et Palerme aussi, parce que Palerme, c'est une petite nappe, si vous voulez, la Sicile. Oui, mais si, il y a l'Afrique, il y en a. Bah. Mais en Europe, moi, je connais bien l'Europe, je crois que c'est la seule, vraiment, la seule grande ville, j'entends, qui n'a absolument pas changé dans sa mentalité, dans sa structure géographique. Alors, on a restauré un petit peu... On a un peu assaini le trafic, il y a des rues piétonnières, si vous voulez. Mais fondamentalement, ça n'a pas changé.
Alors, qu'est-ce qui vous fascine dans Naples, qui vous a toujours fasciné, en fait ?
Voilà,
parce que c'est une ville de caractère.
Donc, j'ai habité Naples, j'étais professeur, et donc j'ai habité vraiment là. Enfin, à Pise aussi, mais... Eh bien, c'est la façon de vivre, si vous voulez, c'est complètement différent, je ne peux pas vous dire.
C'est la napolitude, là ? Je pensais que c'était un mot récent, mais non, apparemment.
Non, c'est moi qui l'ai créé.
Ah bon, c'est vous.
Enfin, Chacha parlait de la sicilitude, et sur le modèle, la napolitude, c'est une façon d'être, c'est une mentalité, c'est une... Si vous voulez, c'est par exemple ne pas penser au lendemain, vivre dans le moment présent, vivre dans un climat d'affectivité. Tous les rapports sociaux sont imprégnés d'affectivité. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de bureaucratie. Alors, quelquefois, on est exaspéré parce que rien ne fonctionne, mais il suffit de connaître quelqu'un pour que ça se mette à fonctionner. Vous voyez, tout est par relation, la combinazione, et la... Et alors, ça crée un circuit de... une circularité de... C'est quelque chose de merveilleux. On est enveloppé, il y a une... Je vous donne un exemple. La dernière fois que je suis allé, c'était l'an dernier, pour aller au musée Capodimonte, qui est un musée de peinture, qui est l'ancien palais royal, c'est assez loin, enfin, c'est au-dessus de Naples, dans une colline. Il faut prendre l'autobus, et on ne sait jamais lequel, il n'y a pas... Et en ville, je demande... Il y avait quatre femmes là, qui étaient là. Je me demande quel est l'autobus qu'il faut prendre pour aller à Capodimonte et pour se rapprocher en tout cas. Parce que, eh ben, elles sont mises à se disputer entre elles frénétiquement. L'une disait c'est le 106, non, l'autre le disait c'est le 403, etc. Mais, elles se disputaient et finalement une est montée avec moi. Alors, elle ne me connaissait absolument pas, je ne la reverrai jamais. Elle m'a accompagnée, c'est très loin, il y a une demi-heure d'autobus. Et en haut, elle m'a dit il faut tourner, tourner à droite, etc. Vous voyez, c'était... en France, quand vous avez votre chemin, les gens font un geste de... comme ça, comme si on allait les agresser. En Italie, on se bat pour vous indiquer le meilleur chemin et on se détourne de ce que vous êtes en train de faire pour vous accompagner. Vous voyez, c'est ça, Naples.
Ça, c'est encore Naples.
Mais ça n'a pas bougé. Ça, c'était... J'ai connu ça. C'est plus que de la gentillesse. Vous voyez, c'est... On sait que tout ce qui est d'État, tout ce qui est institutionnel ne fonctionne pas, n'a jamais fonctionné. Donc tout fonctionne par amitié, affectivité, c'est ça.
Entraide.
Entraide. Bon, c'est une vie aussi violente, comme on sait. Mais enfin, il ne faut pas exagérer. La Camorra, ça ne concerne que les groupes d'intérêt. Les stupéfiants. Moi, j'ai vécu à Naples, j'ai jamais eu affaire ni de près ni de loin. Ils sont au contraire extrêmement hospitaliers. Ils ont ce sens méditerranéen de l'accueil. De...
Alors, c'est une ville d'art, quand même. Alors là...
Sublimement belle. C'est la seule grande ville d'Italie. Rome, c'est un village à côté. Milan, ça n'existe pas. Stendhal disait « Paris et Naples, les deux seules capitales ». Et le patrimoine urbain de Naples, vous prenez un plan, c'est très très grand. C'est très très grand. Rome, c'est tout petit. Rome, c'est entre la place du Peuple et la place de Venise, c'est 20 minutes à pied. Naples, c'est des heures. Il y a des palais, il y a je ne sais pas combien d'églises, 400 églises, 400 palais, tout ça aussi un peu décati, souvent fermé. Mais c'est extraordinaire. C'était un royaume hein, jusqu'en 1860.
Un État
Il y a 150 ans, c'était un royaume, un grand royaume, le royaume des deux Siciles. Donc il y avait une cour, donc des palais, évidemment.
Il y a toute une partie d'histoire aussi dans le
chapitre entier
que vous consacrez à l'histoire de Naples. Oui. Et puis évidemment, je disais aux arts, au théâtre, à la musique.
La musique, il y avait deux capitales de la musique avant le 19e, c'était Venise et Naples. Tous les castrats, par exemple, dont on parle tant maintenant, ils étaient tous formés à Naples. Il y avait quatre conservatoires. Naples avait le monopole de la formation des castrats. Et il y avait des grands compositeurs. Et il y avait une peinture napolitaine aussi, est immense. Parce que Caravage a séjourné à Naples. Et il a, à sa suite, il y a eu les caravagesques, qu'on connaît très mal en France, parce qu'il y en a très peu au Louvre, par exemple. Mais c'est absolument magnifique.
Comment est-ce que vous travaillez quand vous écrivez ce genre de texte-là? On passe à un autre registre d'écriture. Oui. Et puis, il y a ces photos magnifiques de Ferrante Ferranti. Vous travaillez comment, tous les deux?
Ferrante, longtemps, ne voulait pas faire ce livre, parce qu'on a fait beaucoup de livres sur des villes. Parce qu'il disait qu'on ne peut pas photographier, ce n'est pas une ville photogénique. Et en effet, les rues sont très étroites, très sombres. On tombe dans le cliché très vite si on met le linge et tout ça. Et c'est très difficile. Donc, finalement, il a mis 30 ans avant d'accepter de trouver des angles d'attaque. Elles sont sublimes, ces photos. Mais c'est une ville très difficile à photographier. Parce que, autant Venise ou Florence, c'est facile. Là, c'est. Parce que tout est imbriqué. Vous savez, au pied des palais, il y a des boutiques. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas non plus d'homogénéité. C'est la vie. Photographier la vie, c'est très difficile. Non, quand on travaille, vous savez, on se sépare le matin. Lui, avec ses appareils de photos. Et puis moi, avec mon petit calepin, je prends des notes. On se retrouve à une heure, mettons, et on confronte nos points de vue. Et si j'ai vu quelque chose qu'il n'a pas vu, il ira le revoir, et réciproquement. Et surtout, le livre n'est pas... C'est-à-dire, le texte n'illustre... Le texte ne commente pas les photos, voilà. Les photos n'illustrent pas le livre.
Oui.
Ce sont deux livres en un.
Oui.
Le livre de l'œil et le livre de la plume. Ce n'est pas redondant. On est
non,
pas,
non, non, non.
Il y a des choses qui parlent différents. Toutes seules, il n'y a pas besoin de les décrire. D'autres, au contraire, qu'on ne peut pas photographier... Quand je parle de l'histoire, par exemple, ou des écrivains, donc c'est deux regards.
Deux regards.
Enfin, deux regards. Oui, deux regards. Enfin, lui surtout, c'est vraiment un regard. Et... La plupart des gens ne comprennent pas Naples. Naples, c'est Naples. C'est pas Pompéi, c'est pas Capri. Ça n'a rien à voir. Ça pourrait être n'importe où ailleurs.
Mais Capri, c'est pas loin pourtant.
Non, mais ça n'a rien à voir. Surtout aujourd'hui, c'est une résidence de luxe. Ça n'a rien à voir. Ça pourrait être ce mec en face d'une autre côte. Pompéi, c'est magnifique, bien entendu, mais ça pourrait être ailleurs. La Naples, c'est la bourbonienne. C'est moite, glauque, épaisse, humide, grouillante. Et c'est là qu'il y a les palais, les églises, tout ça. Donc, les gens qui vont à Naples, d'habitude, ils commencent par aller à Pompéi, puis à Capri. Ils n'osent pas, ils ont un peu peur. C'est très bien, d'ailleurs, il y en a moins. Et beaucoup de gens, moi j'ai des amis qui sont allés à Naples, ils n'ont rien vu de Naples. Rien vu. Mais si on aime Naples, on l'aime à la folie. Il faut, vous voyez, vous allez à Venise ou à Florence, vous êtes conquis immédiatement. Parce que c'est, ça se présente tout seul. Naples, il faut être initié. Moi, j'ai mis 3 mois avant de comprendre Naples. C'est sûr, au début, il faut vaincre les clichés sur la violence, tout ça. Il n'y a pas plus de violence qu'à Paris, c'est faux. Il faut vaincre les clichés, il faut surtout s'enfoncer, parler aux gens. Enfin, c'est une ville secrète, c'est une ville secrète. C'est pour ça qu'elle, peut-être qu'elle a gardé, elle garde son secret. Ce n'est pas une ville qui s'offre.
Qui se livre, qui s'offre tout de suite aux visiteurs. Quelle est l'œuvre qui vous touche le plus?
Ben moi, c'est les Caravages. Il y a 3. Dont l'un, le dernier, qu'on a retrouvé par hasard dans un grenier il y a 30 ans, le martyr de Saint-Ursule. C'est que c'est une banque qui l'a racheté et qui l'expose au 2e étage, dans la salle du conseil. Vous allez à la banque, vous demandez, je voudrais voir le Caravage, vous payez 2 euros.
Ah bon?
Et vous montez au 2e, tout seul. Et vous avez un seul tableau dans une seule pièce. Ce qui est merveilleux, parce qu'il n'y a pas le phénomène de saturation des musées. Vous pouvez vous asseoir pour rester 1 heure, il n'y a pratiquement personne. Il a été restauré, très bien. Ça, c'est... Moi, j'y vais toujours, j'envoie tous mes amis là, ils sont... c'est un tableau bouleversant. Bon, il y a ça, il y a les églises baroques, les cloîtres, qui sont extraordinaires, les palais, les cours de palais, il y a des statues, il y a ces espèces de colonnes votives. Vous savez, quand une peste prenait fin, on élevait une colonne votive pour remercier le ciel. Enfin, c'est pétri d'art, c'est extraordinaire.
Dans la ville même.
Dans la ville même, dans la ville même. Et c'est incorporé surtout. C'est pas comme, on ne va pas admirer ça comme un monument, je veux dire. C'est par exemple, les palais, vous voyez, à Rome, beaucoup de palais sont isolés. Le palais Farnèse est isolé.
Avec un jardin, une grille.
Les palais napolitains sont incorporés dans la rue. C'est très différent. Et... autrefois, il y avait le prince au second étage, et puis en bas, il y avait les artisans, les boutiques, la clientèle. Tout ça vivait ensemble, vous voyez.
Et aujourd'hui, il y a toujours ces rapports de...
Aujourd'hui, les princes sont fauchés aussi, comme à Pise, et beaucoup viennent des chambres d'hôtes, où sont squattés, où il y a des familles. Enfin, c'est un peu délabré. C'est aussi difficile à photographier, parce que dans les cours, ils font des ajouts abusifs, en tôle, choses horribles, vous voyez, mais... c'est la vie, quoi.
Il y a l'esprit, en tout cas.
Il y a l'esprit, il y a la vie, et la drôlerie aussi.
L'humour.
Les gamins de Naples, c'était un peu comme autrefois. Une chose qui a disparu à Paris, c'est les titis, les gavroches.
Vous savez, ces gars... les gens vivent dehors aussi.
Oui, et puis très intelligents, comme ils ont été très longtemps pauvres, c'est un peu moins le cas, la pauvreté développe l'esprit. Il faut se débrouiller, ça favorise le talent. Je me rappelle qu'au début des téléphones portables, il y a quoi, 20 ans à peu près, les gens... vous savez que les maris italiens rentrent toujours déjeuner chez eux. La pasta, c'est sacré, puis ils font la sieste. Donc, il y a des embouteillages monstres. Et alors, les gamins louaient un portable aux automobilistes pour qu'ils puissent prévenir la mama qu'ils arriveraient dans un quart d'heure, qu'elle prépare la pasta. Vous voyez, ils louaient ça. Ils se débrouillent pour faire argent de tout. C'est plein d'humour, je trouve, ça.
Alors, c'est une ville de paradoxes qui a toujours une grande place dans votre vie et dans votre cœur.
Il faut dire aussi une chose très importante, c'est que Naples vit sous la menace quand même perpétuelle du volcan ou du tremblement de terre. Enfin, c'est des phénomènes telluriques. C'est pour ça qu'il n'y a pas le sens du lendemain, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas le côté petit bourgeois, vous savez, comme ça. On sait qu'on peut mourir demain.
C'est un rapport au temps.
Il y a très peu de chance, mais quand même. La dernière éruption de Vésuve est en 1944, en principe, il y en a tous les 50 ans. On attend ça. Il y a un plan d'évacuation, d'ailleurs. Ça me fait rire, parce que évacuer Naples, s'il y a une panique, c'est impossible. Il y a des immeubles surchargés de population. Mais je veux dire qu'en Sicile, par exemple, il y a beaucoup de tremblements de terre très meurtriers. Donc quand on vit sous la menace tellurique, que le sol n'est pas sûr, évidemment, vous n'avez pas du tout la même mentalité. Et ça, il y a eu des grandes éruptions au cours des siècles. Vous n'avez pas la même mentalité qu'un pays assis. Et ça, c'est dans le rapport avec l'argent, c'est très, très net, ça.
Un rapport au temps, surtout, et à la vie.
Et au temps. Il faut vivre, là, le moment
présent. Alors, comment est l'église à Naples? Est-ce qu'on sent une différence dans la façon de gérer les églises ou là?
Non, à Naples, il n'y a pas de
religion. Est-ce que la religion est...
Non, c'est une ville païenne, Naples.
Par rapport
païenne et superstitieuse. C'est-à-dire que Dieu, on ne connaît pas, Christ non plus, mais c'est les saints qui comptent. Et c'est païen parce que les saints, il y en a beaucoup. Comme dans le polythéisme antique, il y avait Vénus, Diane, Apollon, Vulcain. Là, il y a Saint-Christophe, c'est pour les voyages. Pour les examens, je crois que c'est Saint-Antoine.
Et vous en parlez dans Pise, 1951.
Oui, Saint-Joseph, c'est pour Enfin, pour chaque occurrence de la vie, il y a un patron qu'on va, invoquer, on va lui apporter des fleurs, des prières, tout ça, mais on leur demande un service. C'est très, très païen, ça.
Et il y a des grandes fêtes religieuses ou pas ?
Ah ben, il y a la fameuse escroquerie de Saint-Janvier. Vous savez, deux fois par an, en mai à septembre, le saint de Saint-Janvier, qui est le protecteur, qui est conservé dans une ampoule, se liquéfie. En fait, tout le monde sait que c'est une... On le réchauffe derrière l'autel et on le montre liquéfié. Et vous savez, il y a une fameuse anecdote, quand les armées du directoire ont conquis Naples en 99, le peuple était resté royaliste, et le saint, donc au mois de mai, on produit l'ampoule, ne se liquéfie pas. Et le général championné français va derrière l'autel, prend son revolver et ordonne au prêtre, à l'archevêque, liquéfiez-moi ce sang tout de suite, et aussitôt il s'est liquéfié. Parce que, non, c'est vraiment la superstition, mais moi, je sais pas pourquoi pas, enfin, chacun a ses superstitions, mais là...
Vous avez beaucoup écrit sur Naples,
ah
dans,
oui,
pour vos romans, dans vos romans, là, ça a l'air d'être un sujet inépuisable.
Ah, mais c'est la vie que je préfère au monde. Enfin, Saint-Pétersbourg pour
oui,
la beauté...
Oui, vous demander.
C'est autre chose, moi, là, c'est deux pays que j'aime partout, tout. C'est les deux villes vraiment que je préfère, mais pour vivre, Saint-Pétersbourg est plus rude à cause du climat, à cause de beaucoup de choses. À Naples, il y a une espèce de joie de vivre extraordinaire, et des drôleries, d'humour. Alors, vous descendez dans la rue, c'est un théâtre, la rue. C'est ça qui est baroque, c'est une vie baroque.
Vous commencez pas, ça.
Voilà,
hein.
Et alors, il suffit de vous promener, vous voyez, tout se passe dans la rue. Vous savez, les gens, ils dorment chez eux, mais on vit dehors. Alors, les amoureux se rencontrent, les scènes de ménage, les gamins jouent au foot, tout se passe dans la rue. La rue, c'est vraiment, comme dans l'Antiquité, c'est le lieu où on se réunit.
C'est ce qui reste le plus fascinant pour vous, cette vie différente qu'on a perdue ici.
En tout cas,
ni dans les villages,
oui.
Ni dans les...
Bah ici, c'est terrible.
Et encore
on
moins
à Paris.
On ne
connaît pas son voisin. On peut vivre 30 ans à Paris sans savoir qui habite au-dessus, à côté.
Alors quand vous allez à Naples comme ça, vous avez un appartement, une
maison? Non, je loue. J'ai un système, je loue un appartement. Il y a beaucoup d'agences qui sont créées et qui louent pour une semaine, pour quand vous voulez. Et c'est beaucoup plus agréable parce que vous faites vos courses. Moi, je fais des courses. Ça, on va dans les boutiques, il faut absolument. Évidemment, je parle italien, bon. Je ne parle pas napolitain, qui est une langue. Hein. Une langue que je ne comprends pas. Une vraie langue, hein. Il y a des poètes, il y a des...
Vous avez dû l'apprendre, vous dites ça par coquetterie.
Non, je suis très paresseux pour les langues. Oui, l'italien, ça me suffisait. Non, mais ils parlent italien, les gens, mais...
Oui,
entre eux, ils parlent napolitain, souvent.
Le napolitain, vous le comprenez,
Pas toujours, vous savez, ils parlent très vite, ils ont un accent, ils sont... Mais dans les boutiques, enfin, ils parlent italien, quand même, tous. Et moi, je fais mes courses, et puis, l'hôtel, ça va 2-3 jours, mais après, c'est fatigant. On peut pas. Puis on est isolé de la ville. L'appartement, vous voyez aussi les gens de l'immeuble. Enfin,
parce que Naples, c'est un sujet, j'allais dire, de littérature aussi.
Oui, non, mais il y a très peu d'écrivains napolitains.
Oui.
C'est curieux. Je crois que la vie est trop rapide, trop présente, pour être saisie dans un...
Ce sont les étrangers qui l'a...
Oui, il y a quelques très bons romanciers comme Réa. Vous voyez, il n'est pas connu à l'étranger. C'est très difficile de rendre la vie de Naples parce que c'est un perpétuel mouvement, vous voyez, ça. C'est pour ça que c'est la musique, hein, le grand moyen d'expression, le grand véhicule culturel, le chant, et aussi l'opéra, évidemment, le San Carlo, qui est la plus belle salle d'opéra du monde. Malheureusement, aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, il n'y a plus rien, tout est à moitié fermé, c'est catastrophique, ça. Bon, mais il y a la musique, oui, c'est essentiellement quand même la musique, le chant et le théâtre, enfin, il y a un théâtre... En langue, qui est très des Philippe, qui est quand même assez connu, même pour le jour quelquefois ici. En traduction, ça perd toute la saveur, quoi.
Alors, vous nous invitez à aller à Naples. J'invite aussi les lecteurs à vous lire dans ce magnifique livre où vous parlez de Naples, de ses palais, de son histoire, des œuvres extraordinaires, bien sûr, et de cette ville qui résiste, en fait. C'est quand même le début. Votre introduction, elle est très percutante sur Naples. D'y aller franco, parlons-en, elle a tous les défauts, mais elle a tous ses mystères.
Elle a beaucoup de défauts, bien sûr. Je ne me voile pas du tout, j'idéalise pas du tout Naples. Hein. Mais on aime une personne aussi à cause de ses défauts, ou pour ses défauts même. Je veux dire. Mais ce sont des défauts qui viennent souvent du préjugé qu'on a. Combien de gens m'ont dit, c'est une ville sale. Non, alors je leur dis, écoutez, allez passer vos vacances à Lausanne, si vous voulez une ville propre. Vous verrez ce que c'est. Comme on s'amuse en propreté. La vie secrète, la saleté. Donc, ça fait partie de la vie. Puis, elle n'est pas plus sale que... Bon, Paris, c'est un peu arrangé, les habitants. Mais très longtemps, Paris, c'est une ville très sale, je veux dire. Et puis, l'histoire des ordures. Moi, j'étais, au moment de la fameuse crise, il y a 3 ans, je n'ai pas vu une ordure. La crise des ordures, c'est un incinérateur qui était dans une banlieue. Alors là, il y avait un problème. Mais tout le centre historique, il n'y avait pas plus d'ordures qu'il y en a ici. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les médias gonflent. Alors la Camorra, évidemment, c'est vrai qu'elle existe, qu'il y a des crimes. Il y a eu ce film Gomorra, vous savez. Mais c'est très réducteur. C'est comme si à Paris, on parlait uniquement des viols en banlieue. Ça existe. Chaque ville a ses plaies. Mais réduire Naples à ça, on ne parle de Naples dans les médias que pour les choses désagréables, violentes. On ne parle jamais justement de la gentillesse, de la drôlerie, du bonheur de vivre à Naples, jamais ça.
Des histoires drôles aussi, de l'humour napolitain.
De l'humour, ils sont très drôles. Enfin, je vous donne encore un exemple, parce que c'est comme ça l'exemple, je crois que je le cite. Quand je vis à Naples, je reçois un matin un télégramme. Un gamin m'apporte un télégramme, à l'époque, je donne 100 lire, je crois. Enfin, à l'époque, c'est convenable, quoi, je sais pas. Bon, il me dit merci. Une heure après, le même gamin m'apporte un deuxième télégramme. Je ressors mes 100 lire. Il me dit « Ah non, il signore mi ha già dato. Monsieur m'a déjà donné. Dans quel pays est-ce qu'on vous refuse un pourboire ?» Vous voyez, ce sont des seigneurs. Et quand ils arnaquent un touriste, c'est un touriste arrogant, bardé d'appareils énormes. Alors là, il faut montrer qu'ils sont plus malins. Ils sont peut-être plus pauvres, mais ils sont plus malins que le riche. Oui, c'est ça.
Cette ruse dont vous parliez.
Voilà. Oui, le vol, c'est un jeu. C'est pas par cupidité. C'est un jeu pour montrer qu'on est... Bon, on n'est pas riche. Maintenant, c'est un peu différent, parce que la ville s'est quand même mise au niveau à peu près européen. Mais on est plus malin. C'est un exercice de l'esprit. Mais vous voyez, c'est ça. Et je me rappelle que j'étais professeur. J'allais acheter mon jambon chez le charcutier, en bas, dans la rue. Donc, j'emportais un paquet minuscule. Je prenais mon paquet, l'épicier me dit « Ah non, le professeur ne va rien porter. » Et il m'envoyait son gamin, donc je marchais derrière, il y avait le gamin qui portait au bout d'une ficelle, et je sais pas, 50 grammes de jambon. Ça a disparu, évidemment. Mais enfin, pour vous dire l'esprit de... C'est des choses quand même...
Et ça, vous pensez que ça serait pas possible dans une autre ville italienne ?
Non, parce que Palerme, c'est une ville plus dure, plus fermée, elle n'est pas volubile, vous voyez. Les Siciliens ne chantent pas, c'est une ville rauque, fermée. Les Napolitains sont expansifs, sont... Non, parce que j'ai vécu un peu partout en Italie,
oui.
C'est vraiment napolitain.
Alors on espère qu'on aura nous aussi cette chance de découvrir cette gentillesse.
Oui, mais il faut vivre, et surtout il ne faut pas faire le touriste. Et trop de Français, malheureusement, arrivent en croyant que leur pays est supérieur, et puis ils sont agacés parce qu'il y a des choses, en effet, qui ne marchent pas, je veux dire. Je me rappelle, quand je recevais un avis pour la poste d'aller retirer un paquet, par exemple, si vous allez au guichet avec votre paquet, le type ne s'occupe pas de vous. Mais il faut connaître le cousin du guichetier. Alors là, tout de suite, vous l'avez, vous voyez. Il faut comprendre ça. Tout procède par réseau amical, affectueux, tout ça. Si vous dites, j'ai droit à ça, ça, vous n'aurez rien. Moi, je trouve ça assez merveilleux. Ce n'est pas un pays de droit, c'est une ville de non-droit. D'ailleurs, c'est vrai, la Camorra, la mafia, c'est le non-droit. Là, c'est la force, mais c'est... Le napolitain moyen, ce n'est pas par la force, c'est par la gentillesse, l'affectivité, vous voyez, qui arrive à ses fins.
Bon, alors allons à Naples.
Oui, mais allez à Naples, mais résidez un petit peu et initiez-vous à Naples. Il faut s'initier, c'est très important. C'est une ville, il y a à Pompéi la Villa des Mystères, fameuse, et c'est une ville de mystères, de secrets, il y a de légendes, il y a des gens extraordinaires, une ville souterraine aussi. Ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps.
Ah oui, il y a des...
Une ville extraordinaire. Il y a un endroit où on va, il y a des horaires et on visite. Il y a des citernes grecques qui sont des lacs souterrains. C'est une ville pleine de grottes et de souterrains. C'est extraordinaire.
Ouais, Rome aussi, des villes anciennes ont un peu...
Oui, les catacombes et tout ça. Mais Rome, c'est banal. Écoutez, quand j'étais à Naples, au début... J'avais beaucoup d'amis à Rome et pas à Naples au début, donc j'allais en week-end à Rome. J'avais l'impression d'être dans un trou de village, dans un truc de... Et après, je ne suis plus allé en week-end, je suis resté à Naples, c'était beaucoup plus enrichissant.
La ville se suffit et
se
nourrit.
C'est énorme, c'est une très grande ville.
Comment est-ce qu'elle absorbe alors ? Est-ce qu'elle absorbe des étrangers ? Est-ce que c'est une ville cosmopolite ?
Non, pas du tout, non. Enfin, il y a beaucoup d'étrangers qui s'installent, mais qui deviennent napolitains.
C'est l'inverse.
Ils s'en napolitanisent, en quelque sorte.
D'accord.
Mais, écoutez, dans l'histoire de Naples, pas tellement, je crois. Non, les gens vont à Rome parce qu'ils vont tous à Rome, Florence, à Venise, les étrangers. Parce que c'est la mode, la vie est plus facile aussi à Naples. Il y a le chaos, il y a le désordre.
Il y a ses préjugés, tout simplement.
Il y a le préjugé, Mais moi, si je vais aller vivre en Italie, j'irai à Naples, ça, certainement. Mais c'est vrai, cette question, je ne m'étais pas posée, mais il n'y a pas beaucoup. Il y a Malaparte, et même Malaparte est allé vivre... Enfin, il avait sa villa à Capri, ce qui est très différent.
Ce que vous disiez tout à l'heure,
voilà.
C'était pas tout à fait pas la même chose.
Est-ce qu'il y a des gens illustres qui sont restés à Naples. Pas tellement, je crois.
Vous n'y êtes pas resté, mais vous y allez souvent. Oui.
Non, mais moi, j'envoie mes amis à bon escient, ceux capables de comprendre, et ils reviennent absolument envoûtés. C'est une ville envoûtante.
Envoûtante et qui garde ses mystères.
Et c'est pas carte postale, vous voyez, c'est pas le Vésuve, c'est pas la mer. Hein. Il y a un roman qui s'appelle, un très bon roman qui s'appelle Il mare non bagna Napoli. La mer ne baigne pas Naples. Pour dire que la vraie Naples, c'est pas la ville de mer. Ça ne compte pas. Le port est très petit par rapport à la ville. Sur la mer, il y a les grands hôtels, palaces internationaux qui n'ont aucun intérêt. La ville tourne le dos à la mer, en fait. Et beaucoup d'étrangers, justement, vont d'abord dans ces hôtels et se promènent au bord de la mer et puis vont à Capri, à Pompéi. Ils ne voient pas Naples. C'est pas une ville de mer. Alors, les fameuses cartes postales avec le Vésuve, le pin, tout ça. Bon, on voit ça le premier jour, puis c'est fini. C'est pas ça, Naples. C'est pas une ville carte postale. C'est pas Venise, vous voyez. C'est une ville d'odeurs, de bruits, de sensations, d'émotions.
Merci, Dominique Fernandez.
Merci.
Thank you.